Nazareth en Galilée, une bourgade tranquille, peuplée de braves gens, fidèles depuis des générations au Dieu d'Israël. Or, aujourd'hui, la ville est en émoi en raison de l'un de ses habitants, un homme jusque-là extrêmement discret. Naturellement, au début, les gens discutent, ils hésitent, ils sont surpris, jusqu'au moment où, tout de même, il faut prendre position, il faut se prononcer, il faut voter. Et le vote de la majorité est très net. Il refuse que Dieu puisse les rejoindre ainsi, par la médiation de l'un des leurs, de ce Jésus, le fils du charpentier. On se souvient qu'à l'époque, le peuple juif s'était fait une idée assez précise de la personne du Messie. On l'attendait depuis si longtemps et tout le monde, les petits comme les grands, s'imaginait le Messie arriver parmi eux avec une grande puissance, en s'imposant par son charisme, par son faste, par sa force, en s'imposant. Or, manifestement, rien de tout cela ne s'applique à leurs concitoyens, d'où leur stupéfaction. On ne l'entendait pas jusqu'à aujourd'hui. Il était si discret. Et puis, on le connaît depuis tout petit. Nul ne le connaît mieux que nous. La conclusion tombe. Impossible que le Dieu Tout-Puissant se manifeste ainsi. Oui, les habitants de Nazareth sont des braves gens, des Juifs honnêtes. Et d'ailleurs, l'Évangile le précise, ils reconnaissent la sagesse des paroles de Jésus, ses miracles. Ils ne le nient pas, ils tiennent compte des faits. Alors, comment peut-on expliquer qu'ils puissent se tromper ainsi, d'autant plus donc qu'ils attendaient le Messie ? L'explication tient en un mot, la foi, ou plutôt son absence. L'Évangile précise d'ailleurs que Jésus s'étonna de leur manque de foi. On a du mal à imaginer cette situation. Jésus, c'est le Fils de Dieu, celui qui dit qu'il sonde les reins et les cœurs, celui qui connaît les intentions de ses interlocuteurs, même quand elles sont cachées. Et alors, aujourd'hui, il serait étonné. Cela en dit long, en tout cas, même si nous avons du mal à l'imaginer, cela en dit long sur ce qui se joue au fond des consciences des habitants de Nazareth. Ce manque de foi qui est le leur, en réalité, c'est un rejet, c'est un refus assumé que Dieu se manifeste dans la faiblesse, un refus que Dieu puisse emprunter un chemin aussi humble. En un mot, un refus que Dieu agisse comme il l'entend. Ce n'est pas propre aux habitants de Nazareth. Au fond, il n'y a rien de nouveau. Déjà, les prophètes de l'Ancien Testament avaient dû passer par là. Nous venons d'entendre il y a quelques minutes Dieu parler à un prophète de la révolte d'Israël. Leurs anciens se sont soulevés contre moi. Quant aux fils, leur visage est dur et leur cœur obstiné. Ah oui, quelle engeance de rebelles ! Et pourtant, dit Dieu à Ézéchiel, c'est à eux que je t'envoie. Ézéchiel n'est pas le seul. Tous les prophètes sont passés par là, de Moïse à Malachie, en passant par Élie, par Amos, par Jérémie et tant d'autres. C'est que quand Dieu envoie un prophète, c'est presque toujours un homme humble, et même plus qu'humble, un homme faible et démuni, dont la seule force est d'avoir été choisi par Dieu pour parler en son nom. Au fait, que devons-nous entendre ici par ce verbe ? Parler. Pour un prophète, parler, c'est tout simplement annoncer, avertir, et non pas convaincre ni persuader. Pour convaincre, nous le savons bien, il faut une intelligence puissante, il faut des arguments qui s'imposent à la raison des auditeurs. Quant à persuader, il faut aussi avoir une grande sensibilité et puis un art qui soit capable de soulever les émotions et de prendre les gens comme dans un filet. En tout cas, dans les deux façons, convaincre ou persuader, celui qui parle, au fond, cherche à capter l'admiration du public et sa docilité. Attention, je ne dis pas que convaincre ou persuader soit mal en soi, pas du tout. Mais il y a un grand risque en toile de fond, au point qu'on peut l'oublier. Le but caché, c'est de séduire, c'est-à-dire de mener celui qui écoute à soi-même pour mieux le dominer. Pas étonnant que convaincre et persuader, ce soit le sport ou le rêve de tous les hommes politiques. Mais pour le prophète, rien de tel. Lui, il parle, il avertit au nom de Dieu, et s'il a quelque ambition de conduire ses auditeurs, c'est à Dieu seulement. C'est pourquoi le prophète n'est pas chargé de faire croire. Il est chargé de faire entendre la parole de Dieu qui passe par sa propre voix. Tel est le point commun de tous les prophètes, ceux de l'Ancien Testament et aussi ceux du Nouveau Testament, depuis saint Paul jusqu'à nos jours, jusqu'à Bernadette Soubirou, qui dit aux puissants qui la mettent à la question: Messieurs, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Sous-entendu, ensuite, la balle est dans votre camp. Et il en est ainsi parce que Dieu a créé l'homme bien équipé. L'homme, quand il naît, est bien équipé, il a tout ce qu'il faut pour recevoir la parole de Dieu. C'est pas étonnant, c'est un enfant de Dieu. Pour recevoir sa parole, et cette parole devrait entrer, pénétrer son cœur aussitôt que elle est entrée dans ses oreilles. à condition, évidemment, de ne pas la repousser, de ne pas la rejeter, de ne pas la discuter. Dans ces conditions, refuser d'entendre le prophète, c'est refuser d'entendre Dieu, à moins qu'on ait le fantasme que Dieu se déplace pour nous parler directement face à face. Eh bien, voilà ce qui est arrivé aux gens de Nazareth et à tant d'autres avant et à encore plus d'autres après. Nous entendons cet évangile pour en tirer une leçon simple et forte. Pour que Jésus puisse agir en nous, pour qu'il puisse nous rendre semblables à lui, il y a une condition préalable, une seule. Avoir la foi, ou mieux encore, vivre de la foi, croire de tout son cœur et de toute sa force que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est notre Sauveur et le Seigneur de nos vies. S'il en est ainsi, alors irrésistiblement, on éprouve le désir de le faire connaître, de le faire aimer, de témoigner. Au fait, mes frères, avez-vous déjà essayé de témoigner ouvertement de Jésus-Christ ? Je ne dis pas d'aller sur la place du Capitole, de monter sur un panneau. Non, déjà dans votre famille, dans vos proches, dans vos collègues, avez-vous déjà essayé de témoigner ouvertement, clairement, de Jésus ? C'est difficile. Si vous avez essayé, vous savez que c'est difficile. Les gens n'ont pas envie de t'écouter. Hein, tu croyais qu'il suffisait de parler ? Non seulement cela, mais parfois ils se moquent de toi. Ou alors ils t'écoutent un peu et puis ils disent « Non, finalement, je n'y crois pas. Arrête, passe ton chemin. » Voilà le lot de ceux qui témoignent du Christ. Et donc si nous entendons cela, que nous le mettons en pratique, que nous nous retrouvons plus ou moins moqués ou repoussés, ne soyons pas découragés. Tous les amis de Jésus, tous les saints, tous les prophètes ont dû passer par là. Et même Jésus, en personne, au point qu'il en a été étonné. C'est la seule fois dans l'Évangile qu'on dit qu'il est étonné. Ça doit être quelque chose, cet abîme du manque de foi. Tout étonné qu'il soit, il n'est jamais découragé. Et saint Paul en a tiré cette leçon. La grâce de Dieu me suffit, car sa puissance se déploie dans ma faiblesse. Lorsque je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Mes frères, nous sommes forts de notre confirmation. Nous sommes forts de cette présence du Saint-Esprit au plus profond de notre intimité. Si profond d'ailleurs que nous ne pouvons pas l'apercevoir avec nos sens habituels. Mais il y est, parce que nous avons été confirmés. Alors nous avons tout ce dont nous avons besoin pour ne pas nous laisser arrêter, ni par notre faiblesse, ni par la conscience de notre faiblesse, ce qui est encore autre chose, ni par l'incrédulité des gens, ni par le découragement, ni par les rebuffats, ni par les épreuves, parce que, plus que tout cela, l'Esprit Saint, au fond de nous, au plus profond de nous, l'Esprit nous certifie que la mission de Jésus, aujourd'hui, se prolonge en chacun de nous.